There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bonjour et bienvenue dans l'Actu dans la Poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcastine. Podcastine, ce sont des entretiens avec des journalistes, des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean-Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Clara Etchari de l'équipe Podcastine.
Aujourd'hui, on va faire un petit tour sur les pistes, direction les stations des Pyrénées, la neige, les remontées mécaniques et les économies d'énergie cette année. Alors, pour y voir plus clair au milieu de tous ces flocons, c'est Simon Barthélémy qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Simon.
Bonjour.
Votre article « Les stations des Pyrénées en piste vers la sobriété » est paru chez notre média partenaire Rue 89 Bordeaux. Alors, avant de parler de l'énergie, faisons d'abord un petit point. Comment vont les stations de ski des Pyrénées depuis le Covid et quelles sont les attentes pour cette saison?
Alors les stations dont on parle, c'est celle de NP, la marque NP qui est sous la bannière de la Compagnie des Pyrénées, donc qui regroupe les principales stations, du moins de la partie ouest des Pyrénées, donc celle que fréquentent le plus les Bordelais, donc Gourette, le Grand Tourmalet, la Mongie, Luzardiden, etc. Donc il n'y a pas par exemple Ax-les-Thermes ou des stations qui sont plus du côté des Pyrénées orientales ou des Hautes-Pyrénées, certaines des Hautes-Pyrénées. Et donc, ces stations-là, elles indiquent avoir réalisé une année exceptionnelle, une saison exceptionnelle l'hiver dernier, avec plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires contre un peu plus de 50 avant la Covid. Évidemment, c'était une année blanche, puisqu'il y avait eu des fermetures administratives des stations de ski pendant la pandémie. Donc voilà, il y a un très fort rebond de fréquentation l'année dernière et qui semblerait, si la neige est au rendez-vous, se présente assez bien puisqu'il y a... Ça enregistre déjà une augmentation très forte des réservations.
Mais donc une station de ski, évidemment, c'est très gourmand en énergie. Et qu'est-ce que ça représente au vu du contexte actuel?
Alors ces stations-là, elles estiment qu'avant la crise de l'énergie, la flambée des coûts liés à la guerre en Ukraine notamment, ça représentait 5% de leurs charges. C'est essentiellement l'électricité qui sert à faire fonctionner toutes les remontées mécaniques ou les carburants nécessaires notamment aux dameuses, et elles considèrent que leurs factures, elles ne savaient pas encore très très bien encore il y a quelques semaines à quelle sauce elles allaient être mangées puisqu'elles attendaient des devis, etc., la signature de leur nouveau contrat pour la saison. Mais grosso modo, elles tablaient sur une multiplication par 4 de leurs frais énergétiques, et donc que les charges in fine représenteraient grosso modo 15% de leurs charges.
Mais donc, quelle solution, puisqu'il va falloir continuer à accueillir des skieurs, quelles solutions sont envisagées par les stations pour faire face justement à ça?
Alors leur objectif, c'est de ne pas augmenter le prix des forfaits, en tout cas celle toujours de NP. Il y en a d'autres qui ne font pas partie d'NP qu'ils n'ont même pas augmenté depuis quelques années. Et il faut dire que les forfaits, ça reste quand même... assez cher dans les stations de ski. Quand on y va en famille, c'est un gros budget. Donc elles ont la volonté, en tout cas pour l'instant, de pas pénaliser leurs clients et plutôt de faire des efforts sur les frais de fonctionnement, notamment des remontées mécaniques. Elles ont calculé par exemple qu'en baissant juste de quelques secondes la vitesse des télésièges ou des téléphériques, ça leur permettait de faire des économies substantielles et de le faire plutôt à des heures de moindre affluence, évidemment pour éviter qu'il y ait des queues gigantesques en bas des pistes, que ça des potes quand il y a vraiment la queue et que ça aille moins vite quand il y a moins de gens qui attendent.
l'objectif, c'est que les utilisateurs ne le ressentent pas, pas de risque de se retrouver coincé parce que il y a des coupures d'énergie ou ce genre de choses. Le but, c'est vraiment de gérer tout petit à petit.
Oui, c'est ça. Alors, ils ont aussi identifié, outre les remontées mécaniques, d'autres postes sur lesquels ils peuvent faire des énergies, notamment sur la circulation des dameuses. Il y a des systèmes GPS désormais qui permettent de savoir à quels endroits il est effectivement nécessaire de passer la dameuse, s'il y a eu des chutes de neige ou pas. Et sur la production de neige de culture aussi, il y a des heures où il serait, ça coûterait moins cher de faire ça si c'est nécessaire. Si évidemment il y a des chutes de neige suffisantes, les stations n'utilisent pas de neige de culture, et elles font valoir d'ailleurs qu'elles sont assez sobres en la matière aussi, qu'il n'y a pas de prélèvement substantiel dans les écosystèmes, que ça prive pas d'eau, disons, d'autres usages agricoles ou consommation d'eau potable, de prendre de l'eau pour les pistes de ski.
Parce que justement, la neige, c'est quand même aussi un gros poste. Et là, avec le réchauffement climatique, on s'attend quand même à ce qu'il y en ait de moins en moins. On voit qu'on a eu un automne quand même relativement chaud. Est-ce que c'est pas ce qui va poser le plus de problèmes au final, puisque ça cumule et l'énergie et les ressources en eau?
Alors, pour les ressources en eau, elles disent que il y aura pas du tout de problème, parce que les retenues collinaires ou dans lesquelles ils prélèvent l'eau pour la neige artificielle sont remplies. Il y a eu des grosses chutes de pluie ces dernières semaines, et voilà, ils considèrent que ce sera pas du tout un souci. Enfin, après, il faudra voir, hein, si l'hiver est très très sec. Mais bon, s'il est sec, ce sera pas une bonne nouvelle, puisqu'il y aura pas de neige, du tout. Et que, in fine, sur. Alors, le chiffre n'est peut-être pas le bon pour toutes les stations, mais que les prélèvements en eau pour la production de neige artificielle, ça représenterait que 2%, mais bon, ce qui est quand même pas négligeable, hein, mais que ça, en tout cas, voilà, ça empêche pas, par exemple, des agriculteurs dans les vallées en aval, d'avoir suffisamment d'eau pour leur culture en hiver.
Et alors ensuite, il reste le bilan carbone quand même d'une venue jusque dans les stations qui, par définition, sont isolées du reste. Quelles solutions sont proposées par NP pour améliorer ce bilan carbone ?
Ils sont en train de finaliser les études, hein, sur la réalisation des bilans carbone. Ils sont pas extrêmement précis. Enfin, il y en a qui existent, hein, mais qui prennent pas. Qui ne prennent pas forcément tout en compte, hein. Vous savez que le bilan carbone, il peut se concentrer exclusivement sur l'activité elle-même d'une station, c'est-à-dire les postes de dépenses dont on a parlé tout à l'heure, la consommation d'électricité pour les remontes de pente, les carburants pour les dameuses, etc. Mais évidemment, c'est pas ça qui pèse le plus dans une station de ski. Si on élargit ce qu'on appelle le scope, c'est-à-dire à l'ensemble des émissions qui sont liées à la pratique du ski, le plus gros poste, hein, c'est même 75%, c'est les déplacements pour arriver et repartir des stations. Donc c'est principalement la voiture, donc, puisque la grosse majorité des clients des stations, ils n'y vont pas en train ou en transport en commun, malheureusement, voire même l'avion pour les skieurs qui arrivent de beaucoup plus loin. Donc c'est là-dessus que ils tentent un petit peu de faire des efforts. Les stations n'ont pas directement la main sur les moyens de transport en commun pour accéder aux stations, mais ils essayent de développer des partenariats avec des compagnies, avec la SNCF, pour offrir des solutions de transport en commun. Il en existe, par exemple, il existe des skibus qui permettent d'aller en week-end depuis Bordeaux jusqu'à certaines stations. Alors, il faut se lever très tôt le samedi matin pour le week-end. C'est pas forcément des horaires qui sont intéressants pour tout le monde, mais bon, voilà, il y a quelques alternatives existantes.
Au-delà du bilan carbone, justement, est-ce que ce genre d'alternative peut être aussi une solution pour les stations de ski pour survivre face à l'inflation et donc les gens vont avoir quand même moins de sous pour venir. Ce serait aussi une solution pour continuer à avoir du monde.
Alors c'est pas ça coûte pas forcément moins cher d'aller en bus par rapport à la voiture. Enfin, disons que c'est pas là que les stations ont le plus de soucis. Leur vrai, puisque vous parlez de survie, la vraie question qui se pose pour elles, c'est leur existence dans 10, 15, 20 ans. Les études scientifiques, elles estiment qu'il y aura deux fois moins de neige dans les Pyrénées en 2050 qu'actuellement. 2050, c'est demain. Donc, ça fait quelques années déjà qu'elles réfléchissent à une diversification des activités et même en hiver, parce que tout le monde n'est pas fan de ski alpin ou de snowboard ou quoi, donc ils essayent de proposer d'autres choses, notamment développer les balades en raquettes, etc. Et ça marche aussi pour l'été. Leur objectif, c'est de faire venir des gens aussi en dehors de la période estivale. Et de faire valoir que la montagne, ça peut aussi se pratiquer autrement qu'en faisant du ski.
Donc c'est-à-dire qu'entre le réchauffement climatique, l'énergie, l'inflation, si les stations veulent voir au-delà de cette saison 2022-2023, il faut qu'elles changent complètement de modèle ?
Sûrement. Elles y seront forcément contraintes. On ne sait pas exactement encore à quelle échéance il n'y aura plus du tout de neige à certaines altitudes et que ça condamnera notamment les stations qui sont les moins en altitude. Mais oui, elles savent que d'ici 10-15 ans, enfin, on voit très bien que les glaciers sont tous en train de disparaître et que donc il y aura moins de neige éternelle entre guillemets dans les Pyrénées. Que et bien évidemment les stations vont pas dire que le ski c'est terminé, parce que c'est leur modèle actuel. Ça fait quand même vivre des petites communes qui n'ont pas énormément de ressources par ailleurs, donc elles ne vont pas tuer la poule aux œufs d'or en disant que dans quelques années il n'y aura plus de ski, mais voilà, elles préparent déjà ce changement. Elles font valoir que voilà, il est possible par exemple d'aller se promener sur les crêtes, mais aussi même dans l'immédiat d'attirer un public qui a peut-être moins d'appétence pour le ski lui-même que les générations précédentes. Donc il y a un enjeu même immédiat, sans parler de ce qui va se passer dans 10 ans.
Est-ce que le fait de montrer qu'ils font attention à l'environnement, à l'énergie, ça pourrait aussi attirer d'autres personnes qui diraient « Ok, cette station, elle est consciencieuse, elle fait attention à l'environnement, elle est verte », des gens qui viendraient, on va dire, à cette station plutôt qu'une autre, de par un sort de tourisme vert ?
Oui, elles mettent de plus en plus ça en avant, c'est vrai, pour m'y intéresser quand même. Depuis quelques années, on voit très clairement le changement de discours, bon, alors qui est vrai pour les stations de ski comme pour la plupart des entreprises. Hein. Aujourd'hui, même des constructeurs automobiles, ce qu'ils mettent en avant en publicité, c'est leurs voitures hybrides ou électriques, hein, même si on peut se poser des questions sur l'impact et la pollution que des gros SUV hybrides peuvent générer. Donc, qui n'a pas aujourd'hui une vitrine verte à présenter à ses clients potentiels ? Est-ce qu'après, c'est un vrai critère de choix pour les clients quand ils veulent aller skier, qu'une station soit labellisée flocon vert, ou enfin il existe voilà, pas mal de critères ou de grilles de classification qui permettent de choisir les stations en fonction des efforts qu'elles font pour l'environnement. Il y en a certaines qui sont vraiment engagées là-dedans. Ou est-ce que c'est plutôt le prix du forfait ou la disponibilité des hébergements, qui est quand même aussi une question dans les stations pyrénéennes qui sont quand même relativement petites. Et voilà, et le prix qu'on est prêt à y mettre pour aller passer une semaine ou un week-end en famille à la montagne.
Merci Simon d'avoir été avec nous. Votre article « Les stations des Pyrénées en piste vers la sobriété » est à retrouver sur le site de notre média partenaire, rue 89 Bordeaux.
Merci Clara et Chari. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara et Chari, Myrène Garaïco-Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.